petit souci technique.
Alors, cette semaine, on reprend ce que je disais, une série sur le livre des Actes des Apôtres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait focalisé, donc vous avez l'image qui est derrière moi, on avait focalisé notre attention sur les versets 3 à 8 du premier chapitre, et on avait découvert finalement les derniers préparatifs avant la grande mission. Alors ce matin, je ne sais pas comment vous êtes disposés, mais vous allez entendre des choses insolites, inédites et peut-être choquantes. Et donc, ou invraisemblables en tout cas, peut-être. Et donc, j'espère que ce matin, vous êtes prêts parce que ça va être le pompon. Vraiment, on va découvrir successivement trois événements qui sont insolites, totalement insolites, je dirais, avant le lancement. Ah, bah, ce coup-là, il n'y a plus rien. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est derrière. Hein, vous faites comme si ça y était, d'accord? Donc, on va voir ce matin trois événements totalement insolites avant le lancement d'une multinationale spécialisée dans la transplantation cardiaque. Vous voyez de quoi je veux parler? La multinationale, eh bien, c'est tout simplement l'Église. Elle est spécialisée dans la transplantation cardiaque parce que finalement, c'est là où on œuvre en tant qu'Église. On travaille le cœur, pas la forme, mais le cœur. Et c'est du cœur, ensuite, que la forme va changer. Mais je ne sais pas si vous êtes prêts. Donc moi, j'aimerais prier simplement pour commencer ce culte et demander au Seigneur qui nous donne la candeur des enfants. Hein, parce que vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant. On se croirait dans Marvel ce matin. On va prier. Seigneur, je te prie que tu nous donnes la foi dans tes Écritures. Que tu nous donnes des yeux d'enfant, la candeur d'un enfant. Qu'on ne soit pas dubitatif devant le texte qui est devant nos yeux, mais que nos cœurs puissent adhérer pleinement aux vérités qu'on va lire, qu'on va écouter, qui vont être prêchées. Et si tu as permis que ces récits soient là, même s'ils sont invraisemblables pour nous, ils sont dans ta parole, et donc il y a des choses importantes à en retirer et des choses que tu veux nous communiquer ce matin. Donc je te prie que tu bénisses nos cœurs, que tu ouvres nos cœurs, qu'on soit sensible à ton Esprit Saint, et Seigneur, qu'on croit tout simplement. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc maintenant, vous êtes prêts à gober tout, hein ? On est d'accord ? Alors gober, ce serait péjoratif, mais non. On veut vraiment croire que le texte de la Bible est inspiré de Dieu, et c'est ce qu'on croit dans cette Église, et donc on l'enseigne. Alors vous allez voir ce matin, le premier événement insolite, c'est que Jésus décolle. Jésus décolle pour le ciel. Alors vous voyez, c'est écrit. Jésus décolle pour le ciel, ça c'est le premier point. On va lire ensemble les versets 9 à 14. Donc du coup, vous ne pourrez pas le lire derrière moi, mais ce n'est pas grave, vous allez le lire dans vos Bibles. Si vous n'avez pas vos Bibles en papier, sachez qu'on peut avoir des Bibles en version numérique sur des téléphones portables ou des tablettes. Donc ça, c'est chouette, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire. Alors, chapitre 1er, versets 9 à 14. Nous, on parcourt tout le livre des Actes, hein, donc on n'en est qu'au verset 8, et donc on attaque là, ce matin, le chapitre 1, mais verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent : Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Et on arrête la lecture ici pour ce premier point. Alors on sait que après sa résurrection, Jésus a passé 40 jours sur terre, mais il n'était pas 24 heures sur 24 avec ses disciples. pas comme avant, d'accord ? Pendant 3 ans, il a été avec eux, ils l'ont suivi jusqu'à la croix. À partir de la croix, déjà tous l'abandonnèrent. Donc, ils ont pris la fuite. Et donc, Jésus ressuscite, et là, effectivement, ils vont découvrir qu'il est ressuscité. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Mais Jésus ne va pas rester tout le temps avec eux. Et donc, il va faire quelques apparitions soudaines. Je vous en lis une, Jean 20, verset 19. Ils étaient tous enfermés dans une chambre. Écoutez bien, parce qu'il y a un petit détail intéressant. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes. Petit détail. Parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. Ok, ça c'est un bon motif. Quand on a la pétoche, on se ferme à double tour. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous. Alors, c'est assez sobre comme texte, hein. On aimerait avoir un peu plus de détails, mais quand même, on se dit, tiens, c'est bizarre, il débarque comme ça au milieu du troupeau, quelque part, les portes fermées. Alors, est-ce que c'est possible, le texte ne le dit pas, mais c'est possible que Jésus a frappé à la porte, qu'ils ont été voir, c'est bon, c'est Jésus, on peut lui ouvrir, il est venu, et puis voilà. Le texte ne le dit pas, donc on ne peut pas l'affirmer, mais ça paraît un peu étrange. Mais vous allez voir, il y a d'autres textes qui nous montrent que Jésus il avait tendance à disparaître ou à apparaître un peu rapidement. Regardez le verset, Luc chapitre 24, verset 30. Luc 24, verset 30. Et donc là, on est dans cette période. Hein. Donc c'est au moment où il y a les disciples d'Emmaüs, vous voyez. Donc il les rencontre, il discute avec eux sur la route, puis il trouve ça tellement extraordinaire, il leur explique tout ce qu'il concernait dans la Bible. Et puis alors du coup, viens manger à la maison. Il mange à la maison et au moment où il rend grâce, regardez ce qui se passe. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction. Ça c'est rendre grâce. Puis il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. C'est quand même étrange. Hein. Il disparut de devant eux. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est parti gentiment? Quoi, il leur dit, bon, au revoir, ok, c'était bien, vous m'avez reconnu, je m'en vais. On ne sait pas. Soit, il y en a qui disent qu'en fait, touc, il s'est volatilisé, un peu comme Philippe l'a fait quand il était avec l'eunuque éthiopien. Il apparaît, il disparaît. Hop, hop. Et ce serait donc du coup un miracle. Là encore, on aimerait bien avoir des détails supplémentaires, mais bon, le texte, il nous donne juste cela. Donc on en reste là. Mais Jésus, vous voyez, même s'il est apparu comme ça, et vous allez voir la prochaine, donc c'est toujours Luc 24, mais versets 36 à 43. Regardez ce qu'il dit. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Alors donc là, c'en est un tout petit peu après, ils sont retournés à Jérusalem, donc c'est les mêmes deux disciples qui avaient mangé avec Jésus. Ils ont trouvé ça tellement extraordinaire, ils ont dit « Il est vivant, c'est Jésus, on l'a reconnu. » Allez, boum, il rentre à Jérusalem et voilà ce qui se passe. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Et regardez, là c'est intéressant le verset 37. « Saisi de frayeur et de crainte, il pensait voir un esprit. » C'est là où on voit que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que quand quelqu'un frappe à la porte, on sait qui c'est, on le voit arriver et on n'est pas saisi de frayeur, vous voyez. Or là, pourquoi il serait saisi de frayeur si ce n'était pas une apparition soudaine ou un truc étrange, quoi. Et puis, le fait qu'ils disent derrière, saisi de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Ça veut dire que c'est probablement quelque chose de furtif ou alors très rapide. C'est surprenant, quoi. On se dit, mince, qu'est-ce que ça fait là? Vous voyez? Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, et ils ont probablement touché. Pas seulement Thomas, mais voyez, ils pouvaient le toucher, il leur a donné cette opportunité. Donc il existait bien en chair et en os, si on peut dire ça comme ça, chair et en os glorifiés. Comment ça sera, je ne sais pas trop, mais en tout cas, le texte montre qu'il était vraiment dans un corps. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, un barbecue. C'est cool. Hein, au Brésil, je pense que ça aurait été cool, là. Petit poisson grillé sur la plage. Il le prit et le mangea devant eux. Donc vous voyez, là, le fait de manger quelque chose, c'est pas un être immatériel. Un fantôme, il peut pas manger. Hein. Vous pouvez toujours lui mettre des offrandes, il ne les touchera pas. Hein, mais là, Jésus mange le poisson grillé, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Il avait des dents, il avait toutes sortes de mécanismes pour pouvoir l'ingérer. Donc, quelque part, corporellement, physiquement, il y a quelque chose. Alors, toutes ces apparitions et disparitions, eh bien, elles ont eu lieu avant l'ascension. Et aussi, il n'y a toujours pas d'image ? Il n'y en aura pas ? J'abandonne l'idée ? Ok. Aussi, donc, au moment où Jésus va décoller pour le ciel, eh bien, il avait déjà fait énormément de choses surnaturelles. Et donc, finalement, son départ, le départ auquel on assiste, là, au verset 9, eh bien, c'est que le bouquet final d'un feu d'artifice. Il faut s'imaginer un peu la chaîne. Alors, j'avais mis des images, là, mais bon, tant pis, vous ne les aurez pas. Donc, Jésus, il était dehors avec ses 12 disciples à Béthanie, donc probablement à côté ou sur le mont des Oliviers. Ça, c'est le verset 12 qui nous le dit. Il répond à la question que les apôtres lui ont posée. Mais c'est quand que tu vas revenir? C'est quand que tu vas instaurer ton royaume? Et là, il leur dit, c'est pas maintenant, c'est pas votre problème. Personne ne connaît l'heure où je vais revenir. Pour vous, l'important, c'est la mission. Et c'est là où il va citer cette célèbre phrase que vous avez mémorisée par cœur, vous, les étudiants de l'IBG, hein, comme moi je l'ai fait, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, enfin en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et là, comme vous, les disciples, ils ont été stupéfaits, ils étaient là, silencieux. Et puis tout d'un coup, Jésus a commencé à se lever. Ses pieds sont décollés de terre et il s'est mis à monter comme ça. Vous imaginez, comme s'il était gonflé d'hélium, un petit ballon. Il commence à monter, et là, ils disent rien, ils sont là. Et puis là, il y a une fumée qui arrive. Imaginez des fumigènes. Et puis il est là, il est toujours au ciel. Et puis il monte, et puis on ne voit plus. C'est ce que dit le texte, en fait, tout simple. Une nuée le déroba. Donc, c'est-à-dire que on voit vraiment un spectacle là qui est assez impressionnant. Hein. Et là, ils devaient se dire, mais attends, on a une hallucination collective, il y a quelque chose. Hein. Pourtant, ils n'avaient rien fumé, hein. Enfin, j'imagine. Mais ils étaient tellement stupéfaits que Dieu va envoyer deux personnages. Alors, les commentateurs pensent que ce sont des anges. Deux hommes, le texte dit deux hommes habillés de blanc, d'accord ? Mais ils connaissaient des choses qui leur rappellent ce que Jésus leur avait enseigné, d'accord ? Et donc ces deux hommes leur disent, mais rassurez-vous les amis, Jésus est monté comme ça, mais il va revenir. Alors quand je vous disais, est-ce que ce matin vous êtes prêts à accepter ce genre de choses ? Parce que si vous regardez les séries Netflix ou les Marvel, hein, Superman, Wonder Woman, Iron Man, et j'en passe, Hancock, ils ont tous ce rêve, et c'est pas ce rêve, parce que là, c'est une capacité qu'on leur donne de démarrer comme ça, hein, de voler. Je ne sais pas si vous avez eu ce rêve quand vous étiez gosse, moi je l'ai eu souvent, je me réveillais la nuit et ouf, je volais. Voyez. Et je pense que là, quand on voit ça sous nos yeux, mais c'est hallucinant. D'accord ? Et on pourrait se dire, mais finalement, c'est un rêve, on a rêvé ensemble, là, c'est une hallucination. Eh bien, donc, ces hommes sont là pour les rassurer. Et en fait, c'est pas vraiment un spectacle, hein, parce que nous, on ferait ça, spectacle avec la fumée. Quand il y a de la fumée, si vous observez bien le Nouveau Testament, il y a eu trois fois où il y a eu de la fumée. À chaque fois, c'est pour révéler la gloire de Dieu, dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, c'était aussi pour manifester la présence glorieuse de Dieu quand il se déplaçait dans le désert. Hein ? La nuit, il y avait une colonne de feu, et la journée, il y avait un nuage, une nuée, c'est ça en fait. Hein ? Et donc une grande colonne de fumée. Et vous voyez, tout ça, c'était la manifestation de la présence de Dieu. Je cite ici Kuhn, il dit « La transfiguration, l'ascension et la parousie sont trois manifestations successives de la gloire divine du Christ aux hommes. » Et cite Apocalypse 1,7, et dit « Dans chacun de ces cas, la nuée doit probablement être interprétée comme étant la nuée de la Shekinah, la nuée qui, en reposant sur la tente de la rencontre au jour de Moïse, était le signe visible donné à Israël que la gloire du Seigneur se trouvait parmi eux. » Et donc, quand Jésus monte au ciel, il ne traverse pas un nuage, il crée un nuage, d'accord ? Et ça manifeste finalement sa gloire. Ça manifeste qu'il va changer de monde quelque part. Il passe d'un monde terrestre déchu, où il était avec nous, il est glorifié dans son corps, et il va rejoindre son Père dans un corps glorifié. D'accord ? Et donc, il va où, là, Jésus ? Vous êtes tous posé la question, enfin, en tout cas, les enfants me l'ont posé, et franchement, la réponse n'est pas simple. Alors, j'ai demandé à Florent Varac qui réponde à cette question, donc prochainement, vous l'aurez. Donc, moi, je vais vous donner une réponse partielle, je vais vous donner les possibilités, mais il faut qu'on puisse répondre à cette question. Il est où, Jésus, maintenant ? Et il est sous quelle forme, quelque part ? Alors, les avis sont un peu partagés. Un peu partagés, il y en a qui pensent que... Alors attention, c'est une question secondaire, hein, je ne vais pas trop m'y attarder, un petit peu, mais c'est juste pour répondre à notre curiosité. D'accord ? Là, il y aura des options. Donc vous ne serez pas un hérétique si on n'est pas du même avis. D'ailleurs, je ne vais pas forcément donner mon avis. D'accord ? Donc c'est secondaire. En tout cas, beaucoup de chrétiens, et peut-être que vous en faites partie, imagine que Jésus s'est volatilisé, il s'est dissipé dans l'atmosphère pour rejoindre le monde invisible. D'accord ? Donc, il y a d'éminents théologiens qui ont défendu cette position. Je vous cite ici le professeur Harris, et je ne cite qu'une partie. Hein. La résurrection, voilà, il y a des longs développements. La résurrection de Jésus n'a pas consisté à être transformé en un corps immatériel, mais à acquérir un corps spirituel qui pouvait se matérialiser ou se dématérialiser à volonté. Et là, il fait bien sûr référence à tous ces textes que j'ai lus tout à l'heure. Quelque part, on voit Jésus qui apparaît ou qui disparaît subitement, soudainement. Et donc, ce serait... voilà. Il a une apparence corporelle, mais il peut se matérialiser ou se dématérialiser. Parfois même, vous avez entendu probablement parler de ça, c'est qu'il passait à travers les murs. C'est un peu délicat de dire ça. Si on a un être matériel, traverser une porte, c'est un peu compliqué. S'il apparaît miraculeusement, c'est autre chose, voyez ? Donc, ben voilà, là, la conclusion, c'est que Jésus pourrait se matérialiser. Et donc là, quand il est allé au ciel, il s'est dématérialisé quelque part. Mais ça ne convainc pas tous les théologiens, notamment un des plus grands théologiens actuels, qui est quand même M. Wayne Grudem, donc pas n'importe quel théologien. Lui pense que non, justement, Jésus, lui, il est monté au ciel, mais d'une manière physique, et qu'il a donné plein de signes, finalement, avant son départ, s'il leur a demandé de toucher, qu'il a mangé avec eux, c'est qu'il voulait leur faire comprendre que le corps n'était pas négligeable et qu'on allait être ressuscité dans un corps physique, que Jésus allait revenir physiquement de la même manière. C'est d'ailleurs ce que disent les anges. Il va revenir de la même manière dont il est monté. Et donc, du coup, pour lui, il est monté au ciel, il est en haut, quelque part, on ne sait pas où. Je vous lis juste ce qu'il écrit. Ces récits décrivent un événement clairement destiné à montrer aux disciples que Jésus s'est rendu dans un lieu précis. Il n'a pas disparu subitement, mais il est monté progressivement, tandis qu'ils regardaient jusqu'à ce qu'un nuage le dérobe à leurs yeux. Mais les anges ont dit aussitôt qu'il reviendrait de la même manière qu'il était monté au ciel. Le fait que Jésus possédait un corps de résurrection qui était soumis aux limitations spatiales implique que Jésus est allé quelque part quand il est monté au ciel. Il n'est pas nulle part, Jésus. Il est dans un endroit, dans un lieu concret pour lui. Nous ne pouvons pas dire exactement où se trouve le ciel. L'Écriture parle souvent de personnes qui montent au ciel, comme Jésus et Élie, ou qui descendent du ciel, comme les anges dans le rêve de Jacob. Aussi est-il légitime de penser que le ciel se trouve quelque part au-dessus de la terre. Parce que la terre est ronde et qu'elle tourne, nous ne sommes pas vraiment en mesure de dire plus précisément où se situe le ciel. L'Écriture ne nous le dit pas. Mais le fait que celle-ci mentionne à plusieurs reprises que Jésus est allé quelque part et le fait que la Nouvelle Jérusalem descendra du ciel auprès de Dieu indique que le ciel se situe quelque part dans l'univers spatio-temporel. Waouh ! Mince ! Qu'est-ce que je dois croire ? Vous voyez, c'est délicat. Parce que finalement, je suis presque d'accord avec les deux, là. Je suis d'accord avec la deux. Alors là, il ne répond pas à toutes mes questions non plus. D'accord ? Parce qu'il dit, lui, alors, il a fait un long développement, il dit que Jésus est aujourd'hui physiquement assis à la droite du Père. Mais alors, attendons. On n'a pas répondu à la question, le Père. Est-ce qu'il est matériel ? Et ça, c'est une autre question. Le fait d'être situé à la droite, ça veut dire qu'on a toute autorité. Et c'est ce que Jésus est aujourd'hui. Il a toute autorité, donc il est effectivement à la droite du Père. Dieu lui a délégué, lui a donné cette autorité sur toute chair, sur tout l'univers. Dieu règne par Jésus. Boum. Ok, mais physiquement, si c'est Jésus qui est assis à la droite du Père, ça veut dire que le Père est assis sur un trône. Vous voyez, ça fait bizarre. Eh bien, c'est là où on peut se poser des questions. Donc, je n'ai pas la réponse définitive, et si vous l'avez, ben, je serai content de l'écouter. En tout cas, ce genre de situation doit nous inviter à faire quelque chose. Si vous restez curieux, moi je dis, vous avez raté le but. Regardez le verset 14. Qu'est-ce que l'ascension de Jésus, le fait qu'il soit monté comme ça, qu'il ait disparu, qu'est-ce que ça a généré chez les disciples ? Regardez le verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. En fait, ça fait naître de l'espérance. Le fait que Jésus est vraiment corporellement ressuscité et qu'il est monté au ciel devrait pas nous rendre plus curieux que ça ne l'est, parce qu'on n'a pas les réponses à tout, mais ça devrait nous pousser à la prière, à développer notre foi, comme les disciples ici. Et donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième événement insolite avant le lancement de l'Église, eh bien, concerne les disciples de Jésus, et c'est le deuxième point, Judas décède pour l'enfer. Donc le premier, Jésus décolle pour le ciel, le deuxième, Judas décède pour l'enfer. Je lis le verset 15. « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et dit, « Frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous, il avait obtenu part à ce ministère. Après avoir acquis un champ avec le salaire du crime, cet homme est tombé en avant, s'est brisé par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue « Akeldama », c'est-à-dire « chant du sang ». Quel contraste ! En quelques mots, on passe de la joie glorieuse du ciel à l'horreur de la mort. Et puis, pas n'importe quelle mort. Une mort assez glauque quand même. C'est la mort d'un traître. Judas incarne encore aujourd'hui la figure du lâche, du vendu, du perfide, de l'hypocrite. On utilise d'ailleurs toujours son expression, probablement que vous l'avez utilisé dernièrement, le baiser de Judas. Hein, surtout avec les masques, ça peut être mal interprété. En tout cas, le baiser de Judas, ça signifie que c'est un acte de tromperie, de trahison. Quand quelqu'un vous dit « Ah ok, il l'a embrassé, mais c'était le baiser de Judas », c'est pas bon signe. D'accord ? Donc on utilise toujours cette expression. Et donc Luc, ici, il affirme que la trahison de Judas, elle était prédite depuis longtemps à l'avance. Dans l'Ancien Testament, on a quelques textes, effectivement, qui en parlent. En tout cas, c'est ce que dit Luc ici. Il dit « Il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance à Judas. » D'accord ? Donc là, on voit que déjà, la Bible, elle est inspirée par qui ? Le Saint-Esprit, mais qui a parlé au travers de qui ? De la bouche de David. Vous voyez ? Donc ça, c'est un point intéressant. Quels sont les deux textes ? Il y en a d'autres, mais au moins deux textes qui sont évidents par rapport à ça, par rapport à cette trahison. C'est le psaume 41, verset 10. Je vous le lis. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Donc vous voyez, une allusion ici à Judas, qui va lever le talon contre son maître. Psaume 55, versets 12 à 15, c'est encore un psaume de David. « Car ce n'est pas un ennemi qui me déshonore, je le supporterai. Ce n'est pas celui qui me hait qui s'élève contre moi, je me cacherai de lui. C'est toi, un homme comme moi, mon confident, toi que je connais bien. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est sur leur passage au milieu d'eux. » Vous voyez, donc là, il parle encore d'un des disciples qui allait avec lui au temple. Et donc, pour, en tout cas, l'interprète du livre des Actes, donc ça c'est Luc, et donc pour les Juifs de l'époque, c'était clair et net, Judas a été clairement annoncé. Et donc, on pourrait se poser la question, si c'était une prédiction divine, alors ça veut dire que Judas n'était pas responsable, qu'il n'avait pas le choix quelque part. Quelle réponse donneriez-vous à une telle question ? si c'est prédit à l'avance depuis des siècles ? Eh bien, la Bible, elle répond d'une manière catégorique, elle dit non. Elle dit non parce que la souveraineté de Dieu n'engendre jamais notre irresponsabilité, jamais. La Bible montre que Dieu utilise le choix libre des hommes pour arriver à accomplir ses desseins. Dieu utilise le choix libre des hommes pour arriver à accomplir ses desseins. Parfois, il utilise des bonnes actions des hommes, les croyants. Parfois, il utilise des mauvaises personnes, des gens méchants. Par exemple, prenons le cas de Nebuchadnezzar. Il a châtié Israël. Et est-ce qu'il était responsable ? Oui, le texte le dit clairement. Si vous relisez ces textes dans l'Ancien Testament, on voit que Israël a été châtié par un ennemi qui n'était pas gentil, mais cet ennemi-là, lui, va payer pour son péché, parce qu'il a maltraité Israël. Et pourtant, Dieu l'avait écrit. Vous voyez, Jésus, le cas de Jésus, le cas de Jonas. Jonas, lui, il est récalcitrant, il ne veut pas aller voir les Ninivites, surtout pas ce peuple-là. Mais Dieu va l'utiliser quand même, et je pense que Jonas, il n'a pas prêché en mettant des PowerPoint et tout. Hein. Il a dû donner un message cinglant aux Ninivites le plus sobre possible pour pas qu'ils se convertissent. Eh bien, manque de chance, ils sont tous convertis. Enfin, tant mieux pour eux. Hein. Mais vous voyez, et donc Dieu utilise même des serviteurs comme ça. Nebuchadnezzar, Jonas et j'en passe, Dallas. En fait, la souveraineté de Dieu ne gomme pas. On y est, super. Ben, j'ai pas d'écran, mais c'est pas grave. On va avancer comme ça. Ah, par contre, ça marche pas. Ouais, ni la télécommande. Alors, je disais, la souveraineté de Dieu ne gomme pas la responsabilité de l'homme. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il était écrit que Judas allait trahir son maître que Judas n'était pas responsable. Judas était 100% responsable de ses actes. Personne ne l'a forcé. Il aurait très bien pu se rétracter et se repentir. Judas partageait sans doute d'ailleurs l'espoir du peuple juif à savoir que le Messie délivrerait Israël du joug des Romains. Et quand il s'est rendu compte que ce n'était pas le plan de Jésus, qu'il n'aurait pas la richesse et la puissance qu'il désirait, eh bien Judas, il a probablement décidé de minimiser ses pertes. Et donc vendre Jésus aux autorités semblait être un bon moyen d'obtenir une certaine compensation. Et donc du coup ici, c'est l'avidité de son cœur qui l'a fait trahir Jésus. Et non pas le fait que c'était prédit. Jésus l'avait déjà prédit, certes, mais c'est sa propre responsabilité. Donc, Judas était 100% responsable de ses actes et Dieu était 100% souverain sur cette situation. Ça, c'est un mystère qui échappe à notre raison, mais qu'il faut laisser en tension. On retrouve cet aspect-là, la responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu dans bien des grandes doctrines. La sanctification, le salut, la prière, et j'en passe. Vous voyez, on retrouve toujours ces deux aspects, mais l'un n'empêche pas l'autre. L'homme n'est pas une marionnette. Continuons un petit peu la lecture, verset 18. « Après avoir acquis un champ avec le salaire du crime, cet homme est tombé en avant, s'est brisé par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. Bon appétit !» En fait, Luc, il nous offre un détail ici qui semble contredire le seul autre passage. Le voilà, le seul autre passage qui est derrière moi, ça c'est la classe, merci les amis. Le seul autre passage des évangiles qui parle de la mort de Judas. Et vous l'avez sous les yeux. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. Pardon. J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe ? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Vous voyez le contraste avec ce qu'on a lu ? Ici, on voit que Judas s'est pendu, alors que dans l'autre texte, il dit qu'il s'est fendu, hein, il s'est brisé par le milieu et toutes ses entrailles se sont répandues. Alors là, c'est vraiment un texte que les gens qui ne souhaitent pas que la Bible fasse autorité dans leur vie brandissent. Hein ? Généralement, c'est ce genre de texte. Ah, mais regarde, la Bible se contredit. Alors, il y a plusieurs interprétations, bien entendu, pour essayer de répondre à cette apparente contradiction. Je vous en donne cinq. La plus répandue. Judas a dû se pendre à une branche qui était un peu fragile, une petite branche, vous voyez. Et donc, comme il s'est probablement pendu au bord d'une falaise, et là, ça a été prouvé aussi, on va prouver si on veut, hein, mais en tout cas, c'est plausible. Il se serait donc jeté sur la corde, la branche aurait cassé et il se serait étalé sur un rocher qui aurait ouvert le bide. Et tout est sorti. Bon appétit, je vous ai dit. Alors ça, c'était la plus glauque, mais voilà, c'est la plus répandue, hein, probablement que tu la connais, Fred. En tout cas, deuxième interprétation possible, certains pensent que Judas a d'abord fait une tentative de suicide. Il a tenté de se pendre et il s'est raté. Par contre, pas la deuxième. Vous voyez ? Donc, ce serait en deux temps. Et il n'y a pas de détails dans le texte. Donc, il se pend, il se rate, et boum, là, il s'achève, entre guillemets. Troisième, c'est qu'il y en a qui disent que les choses, que Matthieu dit des choses de manière générale, alors que Luc, lui, rentre dans le détail. Effectivement, on peut dire des choses de manière beaucoup plus globale, et ce sera juste aussi. Bref. D'autres pensent que dans les actes, Luc reproduit les paroles de Pierre qui, 6 semaines après les faits, parce que voilà, il ne s'est pas pendu après la résurrection. Il s'est pendu au moment où Jésus a été arrêté. Et là, il a regretté. D'ailleurs, il dit « j'ai péché ». Ça l'a empêché de se repentir quand même. Parce que ce n'est pas parce qu'on reconnaît qu'on a péché que c'est une vraie repentance. C'est ce que la Bible dit en tout cas. Alors, peut-être Judas était-il mort depuis plusieurs jours lorsqu'il est tombé, parce que la corde s'est cassée. Dans ce cas, son corps était déjà en décomposition, et il est plus compréhensible que ses entrailles se soient répandues. Je vous avais dit bon appétit, hein. Gossen raconte l'histoire d'un homme qui s'est suicidé en se hissant sur le rebord d'une fenêtre, en pointant un pistolet, et donc il s'est jeté la corde au cou, et bing, il a tiré. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que vous dites là? Il s'est suicidé comment? Pendu ou en se tirant une balle dans la tête. Et vous voyez, donc, c'est les deux, quelque part. Et donc, certains disent que ça pourrait être très bien les deux en même temps. Voilà. Où est-ce qu'est la vérité? Je pense qu'elle est quelque part dans l'une de ces explications et je pense que ce n'est pas utile de spéculer trop longtemps là-dessus. En tout cas, il y a une chose qu'on doit écarter, à mon avis, si vous êtes croyant, c'est que vous devez écarter la thèse de la contradiction. Parce que la Bible est vraie. Nos interprétations, elles, ne sont pas toujours vraies. Elles ne sont pas toujours justes. Parce qu'on est limité encore dans cette chair. Donc le texte, lui, il est vrai. On n'a pas tous les détails. On aimerait parfois avoir plus d'explications. Mais la Bible, elle, ne se contredit pas. Et je pense que ça, c'est le point qu'il faut retirer de ce deuxième point, de ce deuxième événement. Troisième événement, insolite, avant le lancement de l'Église. C'est que Matthias débarque pour l'Église. Jésus décolle pour le ciel. Judas décède pour l'enfer, et on y reviendra. Et Matthias débarque pour l'Église. Verset 20. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. » Et là, il faut y voir l'enfer. Hein. « Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. » Qu'est-ce que j'ai dit au début de cette série ? Que le livre des Actes était un flash de ce qu'ils étaient passés pendant les 30 premières années de l'Église. Et qu'est-ce qu'on a dit ? Que c'était un texte narratif, et qu'un texte narratif n'était jamais normatif. Narratif, pas normatif, ok ? C'est un texte textes descriptifs. Ça, c'est pour vous, les étudiants de l'IBG, vous connaissez de l'homilétique. Et donc, on est ici dans un texte narratif. Donc, ça ne veut pas dire que demain, à l'église, on va tirer au sort, on va choisir entre deux anciens ou des diacres, on prend les dés et on tire ça au dé. D'accord ? C'est pas parce que ça a été fait dans le livre des Actes qu'on doit forcément le reproduire. Donc là, on va juste discuter maintenant pourquoi ils l'ont fait et est-ce que c'est, quelque part, est-ce que c'est juste d'avoir choisi Judas ? Parce que, de Matthias, effectivement, ils étaient plus que 11. Moi, je me dis, ça aurait pu faire une bonne équipe de foot. Mais il fallait un remplaçant. Judas est écarté. Donc, eh bien, on va le remplacer. Mais eux ne savaient pas que l'apôtre Paul allait arriver quelques chapitres plus loin, quelques mois plus tard. Et donc, ils se sont dit, ok, on doit être 12, on sera 12 pour juger les nations, donc il faut qu'il y en ait 12 sur le trône, qui seront avec le Père. Il y aura les 12 qui seront là, les 12 anciens qu'on voit dans l'Apocalypse. Donc les 12 apôtres feront partie. Et donc, on n'est plus 11, il y a eu un traître, il faut en élire un 12e. Ça part d'un bon sentiment. On veut lancer la plus grosse entreprise, la multinationale, pour la transplantation du cœur, les amis. Il faut qu'on soit 12 dans le conseil d'administration. On est plus que 11, il manque une personne, il faut la trouver. À l'IBG, ça s'est passé comme ça. Il a fallu qu'on trouve une personne pour remplacer le directeur. Et on l'a trouvé, ça a pris du temps. Eh bien là, ils vont choisir deux candidats. Mais comment on choisit les candidats ? Eh bien nous, on envoie un CV, eux, ils avaient des critères. C'est Pierre lui-même qui définit les critères ici. Regardez. Ainsi, donc c'est verset 21, « Ainsi, parmi ceux qui nous ont... » Alors, je ne sais pas si je l'ai mis ici. Ah mince, je vous ai tout lu et je ne vous ai pas avancé le truc. « Voici les exigences pour être apôtre. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. » Alors, certains pensent que, comme on ne reparle pas de Matthias, c'est la seule mention du mot Matthias dans la Bible, donc on ne le revoit pas ailleurs, certains pensent qu'ils ont fait une erreur. Ils se sont précipités. Et donc, ils ont élu Matthias un peu à la va-vite. Ils ont pris le mode opérationnel de l'Ancien Testament, qui était l'Oumim et le Toumim. Vous savez, quand on tirait au sort, ça se faisait. Donc là, on est à cheval entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Donc il n'y a pas encore les règles du Nouveau Testament qui sont mises en place. Vous voyez ? Et tout le livre des Actes, d'ailleurs, c'est une avancée progressive. On le verra dans Acte 15 avec les gens, quand il leur dit de ne pas manger de viande avec leur sang. Ils disent, attends, on a le droit de manger tout, puis pourquoi tu interdis ? Vous voyez, mais ça, on va y venir. Et là, on est exactement dans une situation analogue. C'est-à-dire que il y a l'Ancien Testament, il y a le Saint-Esprit qui va venir, mais il n'est pas encore là. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, ils ont trouvé une solution palliative. Mais pas n'importe laquelle, ils ont fixé des critères, le CV était très clair. Est-ce que l'apôtre Paul rentrait dans ces critères ? Et là, c'est délicat. Est-ce que l'apôtre Paul a marché avec Jésus pendant les 3 ans depuis, c'est ce que dit le texte, depuis le jour du baptême de Jean jusqu'à la résurrection ? Eh bien non. Donc Paul ne rentrait pas dans ce critère-là, et c'est Pierre lui-même qui définit ce critère-là. Donc c'est un peu délicat de dire que Paul serait le 12e apôtre. Moi, quand je regardais l'Ancien Testament, je me suis dit, mais finalement, est-ce que ce n'est pas un cas analogue avec ce qu'on avait vu avec la tribu Joseph ? De sa tribu, il n'y a pas la tribu de Joseph. Vous voyez pas la tribu de Joseph ? On a Manassé et Éphraïm. Vous voyez ? C'est 12 ennemis quelque part. C'est 2 demi-tribus. Oui, et on serait presque dans cette circonstance-là. Est-ce que Dieu a fait comme ça ? Alors, c'est juste une aparté. Il n'y a pas d'enseignement dogmatique sur ce point. En tout cas, Paul, il ne satisfait pas la première exigence. Il n'a pas vécu avec eux. Quant à la résurrection, alors lui dit qu'il l'a vu, mais lui-même dit qu'il n'est pas comme les apôtres. Regardez ce que dit 1 Corinthiens 15, versets 6 à 9. Ensuite, donc il parle de ceux qui ont vu Jésus après sa résurrection. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Verset 7. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Vous voyez, donc lui-même ne se considère pas comme les autres. D'ailleurs, il va parler des 12. L'apôtre Paul parle des 12. On dit, attends, s'il parle des 12, ça veut dire que Matthias était compté là-dedans. Donc effectivement, quand on lit le Nouveau Testament, jusqu'à Paul, c'est Pierre qui parle. C'est le ministère de Pierre et ensuite c'est le ministère de Paul. Mais dans le ministère de Pierre, on voit la mention des 12 à plusieurs reprises dans le livre des Actes. Donc Matthias, il était là-dedans. On ne mentionne pas son nom, effectivement, mais on ne mentionne pas celui de Barthélemy, celui d'André ou d'autres. Vous voyez ? Donc finalement, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas son nom. Quand il fait partie d'un package, il fait partie de l'équipe. Vous voyez ? Qu'il soit le remplaçant nouveau arrivé ou pas, il fait partie des 12. Et donc finalement, on ne parle peut-être pas de Matthias directement, mais on en parle de manière indirecte. Donc vous voyez qu'ici, c'est pas simple de savoir. Alors je sais qu'il y en a qui ont des réponses très catégoriques sur ce point, mais moi je vous invite, quand il y a des textes comme ça, où on n'a pas de certitude, laissez l'incertitude. Vous ne ferez pas un mauvais croyant ou un mauvais chrétien parce que vous n'avez pas répondu de manière catégorique à cette question. Comme d'ailleurs la question du ciel. Qu'est-ce que ça fait, franchement ? Si ça doit faire quelque chose, ça doit te pousser à la prière. Ça, c'est beaucoup plus important que de spéculer pendant des années, d'écrire des bouquins sur un truc où personne n'aura la réponse définitive. Alors, je conclue ici ce message. Donc, et je vais vous donner trois raisons qui devraient nous réjouir, au moins pour le premier point, trois raisons qui devraient nous réjouir que Jésus soit monté au ciel. La première de ces raisons, c'est que Jésus nous donne un gage pour notre héritage futur. Et oui, parce que finalement, si Jésus ressuscité, qui nous a montré qu'il était vivant, qu'on avait une vie physique, matérielle, eh bien ça nous donne le gage que, dans le futur, on vivra aussi avec lui. Parce qu'il dit qu'il est en train, maintenant, de nous préparer une place. Ça fait 2000 ans, elle va être sympa la place. Hein, je sais pas, moi j'ai fait des travaux chez moi pendant quelques mois, c'est sympa. Mais là, ça fait 2000 ans, et attention, l'ouvrier, c'est Jésus. Hein. C'est autre chose. Hein. Lui, il a tous les diplômes réunis. Hein. Électricien, plombier, hein, tout. Imaginez qu'il nous prépare une place. C'est génial de penser ça. Et donc ça doit nous réjouir. Réjouir parce que c'est vraiment un gage. Si Jésus l'a vécu, alors nous, on pourra le vivre aussi. Deuxième raison qui devrait nous réjouir, c'est l'assurance que Jésus prie pour nous maintenant. Si Jésus est vivant, ça veut dire qu'il peut intercéder et répondre aussi à nos prières. Si Jésus est Dieu, il peut répondre à nos prières. Mais on sait, et c'est Romains chapitre 8 qui nous le dit, avec le Père, ils intercèdent. Et même l'Esprit, par des soupirs inexprimables, vous vous rappelez de ce texte ? En fait, on a l'assurance que maintenant, là, si vous êtes dans une galère totale absolue, Jésus, il prie pour vous. Il l'avait fait pour Pierre, rappelez-vous. J'ai prié pour toi, le diable t'a réclamé comme du froment. J'ai prié pour toi. Vous voyez, quand on sait que Jésus prie pour nous, les amis, ça c'est cool. Hein. Et bien là, on a l'assurance que Jésus est auprès du Père et qu'il intercède pour nous. C'est notre avocat dès maintenant. Là, il est assis à la droite du Père et comme il est pleinement souverain, il règne et donc du coup, il peut prier pour nous. Waouh ! C'est génial. Enfin, en tout cas, je trouve. Pas vous ? Et la dernière, c'est que Jésus règne. On sait qu'il a été intronisé par Dieu. Cette fumée nous montre la gloire de Dieu. Et donc, du coup, on sait qu'il est assis à la droite de Dieu. Alors là, il y a moult textes qui en parlent. Que Jésus est assis à la droite du Père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. En tout cas, la certitude qu'on a, c'est quand on est assis à la droite, c'est qu'on a l'autorité. Toute autorité. Donc, Jésus règne maintenant sur cet univers et sur ta vie. Donc, vous voyez ? Trois bonnes raisons pour se réjouir de l'ascension de Jésus. Mais quand même, j'aimerais revenir sur un point. C'est Judas. Judas, il avait le choix. Judas, il a même reconnu son péché. Il a reconnu qu'il avait péché et qu'il a trahi son maître. Il a essayé de se rattraper en redonnant l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Il devait se repentir. Il avait tellement honte, il ne pouvait même pas se pardonner lui-même.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est ôté la vie. Moi, je trouve que c'est d'une tristesse. Parce que Dieu nous donne la capacité de nous repentir jusqu'au bout, les amis. Judas n'a pas voulu de ça. Il avait trop honte. Mais c'est justement l'étape juste avant, les amis, qu'il faut se tourner vers Dieu. C'est là où on a honte. Peut-être qu'il y a un péché dans votre vie, une situation où vous n'êtes pas fier. Bien, Dieu ne veut pas que vous fassiez comme Judas. Il veut que vous vous arrêtiez, que vous reconnaissiez votre péché, mais que vous vous en détourniez. C'est ça la repentance. Il veut que vous vous détourniez de votre péché. Peut-être que vous êtes dans une situation comme ça, difficile, je ne sais pas. En tout cas, ne pensez pas au suicide, s'il vous plaît. Parce que Judas, lui, est allé dans un lieu où on ne peut pas revenir. Et la Bible dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc on n'a pas le choix. C'est soit maintenant qu'on fait le choix de suivre Jésus, soit on ne pourra plus jamais le suivre après. Donc on a encore cette opportunité aujourd'hui. Et moi, je vous invite, on va prier ensemble. Si vous êtes dans cette situation, mais confiez-vous à Dieu, confiez toute votre vie à Dieu. Donnez-lui votre âme. Livrez-vous entre ses mains et non pas en trouvant une solution qui serait définitive et pour laquelle vous ne pourriez même plus regretter parce que vous ne pourriez pas revenir en arrière. Judas, aujourd'hui, ne peut plus revenir en arrière. Et il a eu cette opportunité, il ne l'a pas saisie. On prie ? Seigneur, on veut te remercier déjà pour ce texte extraordinaire. On voit des choses qui sont hallucinantes. On a du mal à le croire en tant qu'humain de voir ce spectacle son et lumière. C'est juste fantastique, mais c'est réel. Il n'y a pas de trucage. C'est bien ce qui est arrivé. C'est un médecin qui a fait le compte-rendu. On peut lui faire confiance. Seigneur, je te remercie pour ce privilège et tous ces bienfaits que tu nous donnes au travers de l'ascension. Merci pour cette assurance que tu intercèdes pour nous maintenant, dès maintenant. Quelle grâce de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et Seigneur, si un frère, une sœur ou quelqu'un qui ne te connaît pas encore, qui aurait peut-être, qui serait tenté de passer par le suicide, de s'éliminer, qui a du mal à reconnaître que tu peux le pardonner. Alors Seigneur, je te prie que tu lui donnes la force, la repentance. Donne-lui la capacité de se tourner vers toi, s'il te plaît. Qu'il ne regrette pas, mais au contraire, qu'il puisse se réjouir que tu l'aimes tel qu'il est, dans son péché, et que tu veux justement, toi, le laver. On ne veut pas arriver propre devant toi, on arrive sale, mais justement, c'est parce qu'on sait qu'on ne peut pas payer notre dette. On ne peut pas redonner de l'argent, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas racheter notre salut avec quelques pièces d'argent. Seigneur, c'est notre vie que tu veux, et je te prie pour qu'on puisse te la donner. Totalement, Seigneur, s'il te plaît. Et je te prie tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen.